Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon mercredi soir, bienvenue à la Végémission. J'ai ce soir avec moi ma collègue Maria.
Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de revenir à la Végémission ce soir. Puis j'ai un sujet à vous proposer là, qui est un peu plus insolite en fait. Je suis tombée dessus en écoutant un podcast et j'étais fascinée parce que j'avais jamais entendu parler de ça. C'est les vibrations énergétique des aliments. Daphné, toi, est-ce que ça dit quelque chose?
Du tout, du tout. Vraiment, quand tu m'es arrivée avec ce sujet-là, j'ai un peu été étonnée, surprise, figée un peu, parce que j'aurais jamais pensé que des aliments auraient pu avoir une vibration énergétique comme les humains, un peu. J'imagine que ça se ressemble. Tu vas pouvoir plus nous expliquer ça, mais ça m'intriguait vraiment beaucoup, en fait.
Mais oui, c'est ça. Puis cette thématique part du principe que tout dans la vie est vibration. Puis ça, c'est Albert Einstein qui nous l'avait dit. Et si on va voir dans la physique, là, surtout la physique quantique, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on nous dit que la quatrième dimension de l'univers, c'est les vibrations, que tout est en train de vibrer constamment, nous-mêmes, les objets, la nourriture. Et Nikola Tesla, pour sa part, il nous disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquences et de vibrations. Donc, c'est de là que part toute cette thématique-là. Avant d'aller plus loin, je voulais vraiment vous dire qu'on n'est pas allé dans la littérature scientifique ou mener de la recherche approfondie sur le sujet, là. C'était vraiment pour vous donner un avant-goût d'une thématique qu'on entend moins, là. Donc, si vous avez envie après d'aller écouter des podcasts, de voir des ressources sur le sujet, là.
Parce qu'il y en a.
Il y en a.
C'est ça, il y en a. Puis, est-ce que, je ne sais pas si tu le sais, là, parce que... je pense qu'on parle plus beaucoup d'Albert Einstein et de Nikola Tesla un peu plus, mais moins d'Einstein ces temps-ci. Puis est-ce qu'eux autres ont écrit sur ça?
Mais eux, ils étaient vraiment côté science, je pense. Okay. Je suis pas sûre qu'ils étaient du côté de la nourriture, mais peut-être. Personnellement, là, nous, on est comme en sciences humaines, donc un peu loin de,
ouais,
de ces thématiques.
Oui, oh, oui, c'est pour ça que ça, en tout cas, que tout m'étonne dans ce que tu dis aujourd'hui.
Non, c'est ça, mais c'était vraiment une découverte pour moi. Donc, si on vient là, à la nourriture... on part de l'idée que tout vibre, donc la nourriture aussi, et les fréquences qui sont émises, mais ils vont avoir une influence sur notre corps. Et c'est intéressant parce que je lisais un article du blog Simple Roots. Si vous ne connaissez pas, c'est super intéressant. Et la fille nous racontait en fait que les calories, on les utilise très souvent là, pour parler de nourriture. Mm-hmm. On dit « Ah, oh, tu devrais manger moins de calories » ou « Tel aliment est très calorique ». Mais en fait, les calories, c'est une mesure un peu biaisée parce que le corps, il les utilise de façon différente selon le type d'aliment.
Mm-hmm.
Mais pourtant, tout le monde est vraiment fixé sur les
calories.
Ça,
on compte juste ça. Là.
On compte juste ça. Mais si à la place de compter en calories, on pense en termes d'énergie, okay, qu'est-ce que les calories apporte au corps, donc qu'est-ce que l'énergie des aliments va faire au corps, mais ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'on est dans le mouvement, dans la transformation d'énergie, et tout ça, ça revient aux fréquences. Donc, plus les fréquences d'un aliment sont élevées, mais plus ça va élever nos fréquences. Et une santé optimale, un bien-être optimal vient quand on est en mode d'avoir les fréquences les plus hautes, les vibrations les plus hautes. Ça s'applique à plein de sphères de notre vie aussi. Même, tu sais, faire de l'exercice, prendre du soleil, ce sont toutes des choses qui peuvent nous aider à avoir des meilleures vibrations énergétiques. Là, ça va peut-être vous sonner très...
mais c'est un peu très ésotérique, gourou, très spirituel.
Ouais, très yoga, tout ça. Mais en même temps, c'est très scientifique parce qu'on le ramène à la physique, comme on le mentionnait précédemment. Donc, c'est un beau mélange là, de ces deux univers-là à aller chercher.
Et en fait, j'avais une question parce que j'ai la misère à m'imaginer comment qu'un aliment peut avoir une valeur énergétique et comment après ça, tu sais, te dire « Bon, ben moi, j'arrête de compter les calories et puis là, je vais juste regarder la valeur énergétique d'un aliment. » Je me dis c'est...
Oui, donc le principe, en fait, Daphné, c'est d'aller le plus près de la nature possible. Le plus proche que tu vas chercher l'aliment qui est frais, qui n'est pas transformé, le plus tu vas avoir des hautes fréquences énergétiques. Donc, par exemple, il y avait le Health Laboratory qui se penchait sur le sujet, qui nous disait « Un fruit qui est pris directement de l'arbre, toi-même, tu vas le prendre puis tu le mets dans ta bouche, c'est le plus haut aliment énergétique que tu peux avoir dans l'univers. Tout simplement parce qu'il est vivant, il est intact, il n'est pas soumis à des procédés de transformation qui vont faire diminuer la fréquence énergétique ou autant alors. Donc, aller chercher cette idée-là de manger le plus sain, le plus complet possible, le plus proche de la nature, parce que veut, veut pas, dans la société actuelle, on va à l'épicerie et on retrouve des aliments qui ont subi de nombreux processus pour se retrouver sous la forme actuelle, là, je pense que...
Oui, et on le dit de plus en plus aussi, là, quand on dit, par exemple, acheter local, mais c'est sûr qu'aller acheter votre viande ou vos fruits, légumes du marchand d'à côté, il va avoir eu beaucoup, je pense, beaucoup moins de processus de transformation qu'un aliment qui vient du Mexique, par exemple.
Exactement. Voilà, donc tout ce qui est en canne aussi, ça a des processus qui vont diminuer la fréquence des aliments. Et ce qui est intéressant, là, si on vient un peu au thème végé, de la végétation, bon, j'ai pas les fréquences exactes à vous mentionner, vous pourrez faire plus de recherches si ça vous intéresse, mais le corps, pour être vivant, il est dans une certaine fréquence énergétique. Quand il meurt, cette fréquence-là diminue énormément parce que évidemment il y a plus de vie, donc on est beaucoup plus bas. Et ce qui est intéressant, c'est que les fruits, les légumes, les aliments frais, mais ça va amener les énergies au-dessus de la normale du corps, mais la viande, ça correspond à celle d'un être mort. Donc, vraiment, basses fréquences énergétiques que tu peux avoir. Donc, si tu manges ça, mais tu contribues pas à ton bien-être niveau énergétique. Donc, encore une fois, là, je te le mentionne, je ne suis pas experte, je n'ai pas fait énormément de recherches là-dedans, mais je trouve ça super intéressant.
C'est très intéressant. Mais est-ce que par exemple, c'est quand tu consommes la viande, le rapport énergétique est moins haut parce que l'animal est mort? Ou ça, est-ce que c'est un rapport? Ou c'est juste à cause des transformations? Ou c'est un mélange de tout?
Parce qu'il est mort, puis même il y en a qui vont plus loin, là, jusqu'à dire tout ce que l'animal a subi avant de mourir. C'est dramatique, là.
Ouais.
Parfois, ils se font traiter vraiment de manière violente pour venir à être un morceau de viande, finalement.
Mais ça, c'est vraiment plus spirituel de dire que sa vibration énergétique est moins forte à cause aussi de la violence que subit avant.
Ouais, c'est spirituel, mais la physique aussi...
C'est dur à comprendre, hein, parce que c'est comme... Il y a un côté super ésotérique, je trouve, mais en même temps, c'est prouvé, c'est de la physique quantique. Je suis sûre que... Bon, quelqu'un qui s'intéresse à ça, il pourrait l'utiliser à l'université. Je ne sais pas, je ne suis pas en physique, là.
Ce serait génial de parler à ces physiciens-là,
justement. Ça serait fun de voir, parce qu'on parle de quelque chose de scientifique, au final. Fait que c'est comme un mélange des deux. Je trouve ça beau, parce que d'habitude, on les éloigne, ces deux. On éloigne le côté ésotérique et on éloigne le côté scientifique. On les met à part. Mm-hmm. Mais pourtant, ça se complète très bien, là.
Mais oui, non, puis je pense que c'est une belle façon de penser... au bien-être, dire « OK, je vais favoriser dans ma vie ce qui a des plus hautes fréquences. » Puis en fait, je ne voulais pas mentionner, mais le podcast dans lequel j'ai écouté cette idée-là à la base s'appelle « Yoga Inspired Life ». Si vous m'avez déjà écouté dans des épisodes précédents, vous savez que j'aime beaucoup le yoga. elle parle beaucoup en termes d'énergie, elle ramène ce concept-là de la science. Quand elle a mentionné les aliments, j'étais tout simplement fascinée, mais c'est aussi dans la vie en général de dire « OK, allez prendre de l'air frais, le plein air, la nature, c'est des choses qui vont augmenter ta fréquence énergétique. » Donc, tu sais, même quand on se sent stressé, quand on a beaucoup d'émotions négatives, là, on rentre dans la psycho plutôt, là, on va toucher à plein de domaines aujourd'hui, mais juste faire des petits pas, des petites actions qui t'aident à remonter cette fréquence-là, mais ça va te faire sentir
mieux. Mais ça
mieux,
aussi, hein. C'est prouvé, là, par exemple, là, je m'adresse surtout aux étudiants et étudiantes, mais par exemple, quand on passe 4 heures assis à un bureau à étudier, on a besoin de se dégourdir un peu, là, de déconnecter un peu de notre réalité étudiante et juste d'aller prendre une marche dehors, faire le tour du bloc, prendre du soleil, la vitamine D, mais juste ça, notre énergie, elle monte. Là, là.
C'est fou. Puis en rapport à ça, une idée qui m'a aussi laissée vraiment surprise, c'est ça vient d'un autre podcast que j'ai écouté, je pense. Là, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête dernièrement, mais... Parfois, on a tendance à dire « OK, je suis vraiment fatiguée, fait que je vais pas bouger puis aller faire d'exercice », mais l'énergie amène l'énergie. Le mouvement amène l'énergie, je veux dire. Donc, tu sais, par exemple, hier, j'étais comme morte de ma journée. Je suis allée patiner, je suis revenue tellement énergisée. Mm-hmm. C'est fou, là. C'est un exemple banal, mais parfois, on s'autorise pas à prendre le temps d'aller bouger parce qu'on dit on est trop fatigué, mais en fait, si tu bouges pas, si tu vas aller chercher de l'énergie, mais bouger, ça va te l'amener.
Oui, au final, ben c'est nous qui se pénalisons parce que si on se dit qu'on est trop fatigué pour aller bouger, ben là, on n'ira pas, mais c'est sûr qu'on rendu à 7 heures le soir, on n'aura pas le goût d'étudier, on n'aura pas le goût de se faire à manger, donc on va laisser ça un peu de côté, on va dire, bon, ben je vais écouter un film parce que, et c'est correct de le faire des fois, c'est pas ça que je dis, là. C'est juste que quand il faut être productif ou productive, si on l'est moins, aller faire le tour du bloc dehors, aller peintiner, comme tu dis, aller faire l'épicerie, mais à pied, juste ça.
Voilà, c'est toutes des petites choses. Si le soleil est là, allez prendre le soleil, parce que le soleil, tout ce qui est la nature, en fait, ça va aider à augmenter les fréquences énergétiques. Puis on va vous parler plus en détail dans la deuxième partie là, de différents aliments, de différentes façons de cuisiner végé. Et plusieurs vont inclure des ingrédients là, qui ont ces hautes fréquences énergétiques.
Ah oui, c'est ça. Hein? Mais ça veut dire que ça se retrouve vraiment partout, comme dans notre manière d'être en général, dans les sports qu'on fait, dans les activités plein air qu'on fait, dans les aliments. Fait que c'est vraiment, en fait, les vibrations sont vraiment partout dans notre vie, mais c'est
partout, c'est tout l'univers, même la table qu'on a devant nous en ce moment, on la voit pas bouger, mais elle bouge en micro.
C'est vraiment dur d'imaginer, là, c'est vraiment dur d'imaginer qu'en ce moment, on bouge quand on est très statique, les deux assis sur une chaise avec un bureau qui ne bouge pas. En tout cas, moi, ça me passionne, mais en même temps, quand on le voit pas, c'est plus dur à se dire comme non, c'est vrai, là, c'est scientifique.
Non, c'est ça. C'est d'aller au plus petit, là, aux atomes, puis ils sont en train de bouger et on les voit pas, on les voit jamais. Mais c'est fascinant. Je trouve que ça nous met dans une position vraiment de recul par rapport à notre vie, puis c'est juste inspirant, à mon avis, là.
Oui, puis il faudrait revenir peut-être justement sur nos réseaux sociaux, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont écrit sur ça. Ben en fait, peut-être des études plus récentes qui parlent de ça. Je suis sûre qu'il y a plein de gens, de physiciens, physiciennes, peu importe scientifique, je sais pas trop qui s'intéresse à ça, là, mais je suis sûre qu'il y a plein de scientifiques qui ont écrit sur ça, sûrement.
Je suis sûre que oui, il doit vraiment en avoir, là, dans les articles que j'ai lus rapidement sur Internet, souvent ils citaient des sources scientifiques. Personnellement, c'était plus en physique, donc ça me rejoignait moins, là, instinctivement.
Mais quelqu'un qui veut en apprendre plus a la chance, là, peu facilement, en allant sur Internet, trouver plein de sources.
Exactement. Là. Donc, si ça vous intéresse, le site que j'ai mentionné tantôt est le blog Simple Roots. L'article s'appelle « Is the vibration in food the secret to health? » Ça va vous amener là, vers d'autres liens, puis plein de réflexions. Puis sinon, il y avait le Health Laboratory avec l'article qui demande... la question, c'est « Are you eating the highest frequency food on Earth? » Vous m'excuserez pour ma prononciation en anglais. Mais voilà deux ressources là, qu'on a consultées pour vous amener des faits intéressants aujourd'hui.
Bien, c'est super. Sur ce, on va prendre une petite pause, mais on continue ce sujet super intéressant dans pas bien longtemps. Bon retour de pause. On va enchaîner sur notre sujet avec des idées, dans le fond, que Maria avait là, d'aliments qui sont vraiment hauts en énergie vibratoire. Je pense que c'est comme ça que je peux le dire.
Oui, bon, je ne sais pas exactement les termes. Mais voilà, on va aller plus dans le concret, là, dans les aliments, dans la cuisine. Donc, pour vous mentionner quelques aliments qui ont vraiment des hautes fréquences énergétiques, mais on l'a mentionné tantôt, les fruits frais, biologiques, encore mieux, et les smoothies, quand on en fait, mais c'est souvent avec des aliments très frais. Ce qui va m'amener à vous parler de cuisine, de déjeuner. Je sais pas toi, Daphné, mais moi, personnellement, j'adore le déjeuner.
J'adore, c'est comme
mon repas préféré de la journée. Parfois, je me couche le soir puis je pense à mon déjeuner.
En fait, c'est sûr qu'on s'est souvent fait dire aussi que le déjeuner, c'est le meilleur repas de la journée et le plus important. Fait que je pense aussi que on a grandi avec cette pensée-là aussi. Là.
On a grandi avec ça, puis je dirais que j'ai une bibite à sucre. Puis le déjeuner, c'est comme le repas où tu peux te gâter puis aller chercher ce sucre-là naturel de fruits de haute fréquence pour bien commencer la journée. Donc, j'avais envie de vous proposer quelques idées de déjeuner là, qui vont aller chercher plein de bons aliments et que j'aime bien dans mon quotidien. Et si ça peut peut-être vous inspirer, ce sera génial. Donc, on parlait de smoothies, les smoothie bowls.
Oui.
Ça, c'est...
Moi, c'est chaque matin.
C'est chaque matin, toi?
Chaque matin. Ben, peut-être pas en bowl, mais juste un smoothie. Ça, c'est sûr. À chaque matin, je m'en passe pas. Et en même temps, je trouve que c'est la meilleure façon d'aller chercher ta portion de fruits.
Mm-hmm.
Parce que si t'es comme moi, après ça, moi, dans la journée, je ne mange pas de fruits, je ne mange que des légumes. Fait qu'au moins, le matin, bon, tu t'en débarrasses, c'est fait, c'est super bon, tu peux mettre les fruits que tu veux, les aliments que tu veux. Fait que je trouve ça super simple, c'est super bon pour la santé. Et je trouve que en fait c'est une bonne manière de commencer ta journée là.
Mais je pense que oui, les fruits puis aussi les feuillus verts. Mon Dieu, j'ai pas la bonne prononciation en ce moment, mais genre les épinards, le kale.
Oui. Ouais.
Voilà. Parce que c'est des aliments qui sont super bons là. Si vous savez déjà lu sur la nutrition. Il y a notamment le livre « How Not to Die » de Michael Greger qui est excellent. Il parle de 12 aliments essentiels à avoir dans la journée, mais 12 catégories d'aliments. Okay. Puis les épinards, les feuilles vertes, en fait, c'est un super bon aliment à inclure dans les smoothies parce que parfois, on a moins envie d'en manger, là, comme...
Oui, les... c'est ça. Parce que moi, à part dans une salade, je me fais des salades d'épinards, je trouve ça bon, mais j'ai pas envie d'en manger à tous les jours. Et je trouve que dans un smoothie, tu prends une poignée, tu le mets dedans, tu le mets dans le mélangeur, ça va donner une couleur verte au smoothie, mais en tant que tel, ça ne goûte pas les épinards, ça change pas la texture, ça fait rien d'autre. Fait qu'au moins, on a les nutriments sans nécessairement vraiment goûter à la feuille d'épinards.
Exact. Ou au kale, qui est un peu peut-être plus difficile d'approche pour certaines personnes, là, mais... C'est vraiment des super aliments là, à inclure au quotidien. Donc, en plus, en bol, là, on peut venir ajouter des graines de céréales, là, par exemple de l'avoine, et des noix, des graines, là, les graines de chanvre qui sont super riches en graines protéines,
chanvre,
par exemple.
De chia, c'est chia. Super bon pour la congestion. Ouais.
Congestion?
Pour la flore intestinale.
Oh, la digestion!
La digestion! Mon Dieu, je m'excuse.
Peut-être pour la congestion aussi, parce que ça renforce le système immunitaire.
Ah, peut-être, bon. Mais je sais juste que les graines de chia, c'est très bon là, pour la flore intestinale.
Alors, nous, on n'est pas nutritionniste, on n'est pas en médecine, donc voilà, mais c'est...
Et loin de là.
Mais c'est des sujets super intéressants. Puis parlant de graines de chia, les puddings de chia, j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, j'adore, puis je me dis tout le temps, « Ah, oh, je devrais en faire plus, parce que tu trempes tes graines de chia et... » Ça gonfle, c'est magique, puis c'est super bon.
Mais on sous-estime beaucoup, je trouve, dans la société, l'apport nutritionnel que peuvent faire les graines de chia, graines de tournesol, etc. Là, c'est super bon pour notre santé. C'est super facile à utiliser, même si ça paraît pas juste quand on achète le sac ou en vrac, peu importe, mais c'est super simple. Il y a plein de recettes à faire avec ça. Là.
Exactement, puis les déjeuners, c'est un moment parfait pour les inclure ou les collations aussi. Mais une autre idée, si vous êtes plus du genre à aimer les toasts avec beurre d'arachide ou beurre de noix, ensuite vous ajoutez un peu de fruits et de graines par-dessus, là, ça fait un super beau mélange. Ça peut être en crêpe aussi. Les fins de semaine, c'est toujours...
C'est un must,
on se gâte avec les crêpes là, ou les pancakes. Là. Puis il y a plein de versions véganes possibles. Il y a des gens qui me demandent comment tu fais pour le faire en version végane. Mais par exemple, avec la compote de pommes. Si vous cherchez sur Internet, pancakes, compote de pommes véganes, ça remplace super bien. Il y a la banane aussi, mais bon, ça laisse un goût plus marqué. Fait que si vous aimez plus neutre, la compote de pommes. Sinon, l'okara, ça, je vous invite à découvrir. En fait, c'est la pulpe qui reste quand on fait le lait d'avoine maison, par exemple, ou un lait de noix. Et tout ça, c'est disponible sur notre page Instagram. Si vous allez voir, cette saison, nous avons un projet de capsule vidéo où on vous montre des recettes qu'on aime beaucoup.
Qui sont super intéressantes, puis qu'on pense pas à faire, mais qui pourtant sont super simples.
Mais oui, d'ailleurs, une de nos collègues a fait récemment une recette de bol de smoothie, donc aussi disponible sur notre page Instagram, je pense que c'est association.vg.
Association.vg.
.vg.
Vous allez nous trouver après ça, là, très, très facilement.
UDS, là, vous allez nous trouver, donc je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Puis sinon, pour les déjeuners, en fait, je vous invite vraiment à penser à avoir une source de gras et de protéines. Souvent, quand on devient végane, surtout, là, qu'on élimine les œufs, on a des déjeuners un peu plus légers parfois. Puis il y a des gens qui disent « Ah, oh, j'ai faim très vite! » Donc, c'est la nutritionniste, la nutritionniste Cora Loomis qui avait recommandé ça l'année passée pour notre défi végé. Donc, encore une fois, des informations qui sont disponibles sur notre site web, nos pages, si vous voulez aller voir. Mais sinon, je vous dirais que moi, mon déjeuner préféré, c'est des bols, des porridge d'avoine avec toutes les noix.
Oui. Puis j'imagine que tout ce qui est, mettons, les graines, les noix, etc., ça doit avoir une haute fréquence vibratoire, j'imagine, parce que c'est pas très transformé.
Bonne question. J'imagine que oui. Ça, je vais pas aller voir du tout, mais j'ose croire que ça doit avoir des hautes fréquences là,
parce que c'est pas très transformé, techniquement. Là, c'est non, vraiment le grain. Après ça, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on en fait.
Je me suis jamais trop questionnée sur comment sont cultivées les graines,
non plus.
Tout ça.
Ça m'intrigue.
Comment ça arrive à notre table?
Oui, parce que on n'a pas besoin de gros agents de conservation, pardon.
C'est vrai.
C'est pas comme les fruits ou la viande ou les légumes. Donc, en tout cas, faudrait, ça serait à regarder. Mais
puis ça, c'est super intéressant aussi dans la vue. On invite souvent les gens à se questionner sur d'où viennent les aliments. C'est un aspect qu'on aborde moins, nous, dans notre mission, mais on vous invite à le faire là, pour faire les choix qui sont les plus éclairés en fonction de vos valeurs.
Oui, c'est parfait. Puis je sais pas, en tout cas, je sais pas si tu peux répondre à ma question, mais bon, je pense qu'on sait tous et toutes qu'en hiver, c'est plus difficile pour les Québécois, Québécoises de manger un peu plus local, là, mm-hmm. surtout pour les fruits. Mais je me dis, les fraises qui viennent d'ailleurs, l'hiver, ils doivent avoir un taux, en fait, moins bon énergétiquement que ceux qu'on cultive ici en été.
Je pense que oui, parce que ils voyagent de loin, donc c'est du temps, puis mm-hmm. il faut qu'il y ait des processus de conservation d'une certaine façon, ou du moins qu'ils soient pas biologiques pour qu'ils durent plus longtemps. Et c'est un sujet que je trouve super intéressant, sur lequel j'aimerais m'informer, me renseigner davantage. D'ailleurs, ce sera peut-être une thématique à aborder dans un défi planétarien là, qui s'en vient ce printemps, si vous êtes à l'affût sur les réseaux de la VUS. Mais je pense que effectivement ça doit diminuer. Moi, ce que je me questionne, c'est les fruits congelés, parce que tu sais, souvent pour manger des bleuets canadiens en hiver, ça se fait si t'en achètes congelés. Mais est-ce que ça les garde intacts, leur fréquence les congelant? Sûrement pas, mais
je sais pas non plus s'ils font juste bon, on met des fruits comme ça sans enjeu de conservation dans un Ziploc, dans un sac en plastique, et on le met au congélateur. Parce que si c'est juste ça, techniquement, c'est merveilleux.
Ouais.
Parce que, je sais pas si ça garde autant les nutriments et la fréquence énergétique.
Les nutriments, je pense que oui, parce que justement, je lisais dans le livre que je vous mentionnais tantôt, « How Not to Die » de Michael Greger, là, une très bonne référence pour l'alimentation à base de plantes. Il disait que c'est vraiment la meilleure façon de consommer des fruits.
Ah oui, hein?
Parce que ça conserve les nutriments. Donc, à voir pour la fréquence énergétique, mais vraiment des sujets super intéressants là, qu'on pourrait approfondir puis en parler pendant des heures.
Oui, 100%. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant. Et j'ai vu aussi que, en fait, en se parlant, que tu avais aussi testé le dessert, je crois.
Oui, parce que je vous l'ai dit, je suis une bibite à sucre, j'adore les desserts. C'est une passion, vraiment. Donc, je voulais vous parler un peu de dessert végétalien, parce que parfois, les gens, ils me demandent comment tu fais pour cuisiner des desserts véganes. Donc, il y a deux grandes catégories de desserts que je voulais vous parler aujourd'hui, dont je voulais vous parler. D'un côté, les desserts crus, donc ceux qui n'ont pas besoin de cuisson. Puis vraiment, pour ça, il y a un instrument de cuisine de base à avoir, c'est un mixeur, là, un mélangeur où tu vas pouvoir vraiment mettre plein de choses. Puis il y a plein de possibilités. Moi, je cuisine beaucoup avec des dattes, du beurre d'arachide, du cacao. Puis à partir de ça, tu peux faire des boules d'énergie, des barres tendres. Mais d'autres idées, c'est de faire des faux cheesecake, là. Donc, il y a une recette de Minimalist Baker avec juste 7 ingrédients qui utilisent des noix de cajou, okay. du lait de coco, puis t'as une base avec noix et dattes. C'est super bon, et puis vraiment, c'est sûr, ça goûte pas comme un cheesecake. Je sais même plus à quoi ça goûte, mais évidemment, on n'est pas dans l'optique de venir trouver une alternative, une ressemblance, mais simplement d'avoir des belles idées de jouer avec ça. Sinon, d'autres idées, mousse au chocolat. Tu peux en faire avec du tofu soyeux, tu peux en faire avec de l'eau aquafaba, qui est le jus qui reste de la cuisson des pois chiches. C'est un super bon ingrédient. Moi, personnellement, je ne suis pas si fan. Je l'utilise pas beaucoup. Je ne suis pas portée à l'amener dans ma cuisine, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent faire des mousses parce que c'est un peu comme le blanc d'œuf que tu peux... tu peux lever un peu à la neige.
Puis en tout cas, je sais que pour les mousses au chocolat vegan, en fait, mm-hmm. Ça goûte... En tout cas, moi, je trouve que ça goûte vraiment pareil là, à la mousse au chocolat avec des produits animaliers. Fait que je pense qu'on a vraiment une belle gamme, là. C'est sûr qu'il y en a qui se vendent déjà sur le marché, comme il y en a déjà des faux cheesecakes qui se vendent.
Mm-hmm.
C'est juste que vous n'aurez pas le même apport en protéines, par exemple, parce que vous n'utiliseront pas de dattes ou etc. Là. C'est sûr que ça va être moins bon pour la santé, mais...
C'est ça. Puis pour les vibrations, c'est sûrement moins bon aussi, parce que comme on vous le disait, le plus on cuisine chez nous avec des aliments le plus complet possible, le moins raffiné. Du sucre, quand on achète, c'est raffiné. Les dattes, c'est plus naturel.
Mm-hmm.
Donc, voilà, encore une fois, on n'a pas la science infuse de ce côté-là, mais
Non, mais il y a, un moyen, en fait, là, de consommer plus proche de la terre, sur tout, autant sur le sucre que sur les choses plus salées, que sur, j'imagine, même la viande. C'est sûr que le boucher d'à côté, ça doit être mieux qu'une viande qui vient du Mexique. J'imagine que oui, bref. Mais c'est vraiment plus simple, je pense, qu'on le croit, en fait, consommer plus proche de la terre quand on prend le temps de s'informer.
Je pense que oui, puis pour vrai, je trouve qu'on découvre tellement des nouvelles saveurs, là, de quand tu élimines de plus en plus les produits raffinés de ton alimentation, le reste commence à goûter un peu plus. Ça m'est arrivé, là, vraiment, ça fait peut-être 300 que j'ai commencé un peu à explorer davantage ce monde-là, Whole Foods Plant-Based, qu'on appelle en anglais, et c'est merveilleux, donc je vous encourage vraiment, là, à l'essayer aussi.
Ben, c'est vraiment super! Oui. Je te remercie beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui, et on vous invite, là, à aller voir plus en profondeur, là, ce sujet.
Absolument, mais merci beaucoup.
Merci.
À la prochaine.
Bonne soirée.